qu'est-ce qui nous repose vraiment, parce que nous sommes à la veille de la période estivale, etc., et que parfois aussi j'entends des personnes qui partent en week-end, mais qui reviennent peut-être plus fatiguées du week-end qu'ils n'y sont partis. Et donc je me dis, mais est-ce qu'ils ont compris le but du week-end, qui est précisément se reposer? Alors qu'est-ce qui nous repose vraiment? Alors j'aimerais commencer par une citation du pape Paul VI, qui parle des vacances en général. Il dit, nous devons nous rappeler que les vacances ont une importance énorme, souvent décisive pour le développement intellectuel et moral de l'homme. Les vacances ne sont pas une pause, très belle, etc., mais une rencontre de l'homme avec lui-même. Je trouve ça intéressant, cette manière de présenter les vacances, parce qu'on n'a pas forcément cette manière de voir, qu'au fond, les vacances et le repos en général, ça demande une certaine connaissance de soi-même. C'est une certaine manière d'être et de découvrir qui je suis. Qu'est-ce qui nous repose vraiment? Moi, j'ai mis longtemps à savoir qu'est-ce qui me reposait, par exemple. Maintenant, j'ai découvert ce qui me reposait. C'est parce que dans notre communauté, on a 15 jours de repos par an. Alors, on milite pour qu'il passe à 3 semaines, mais bon, c'est plus difficile. Mais toujours est-il que qu'est-ce qu'on fait pendant ces 15 jours? Et moi, j'ai découvert qu'en fait, ce qui me reposait, c'est d'être seul, premièrement. Ensuite, parce que je vis en communauté tout le temps, donc voilà. Ensuite, c'est d'avoir du soleil. Bon, voilà, je suis dans un lieu où il n'y a pas trop de soleil. Pour ce camp, c'est dans l'Oise, donc voilà. Et c'est de l'eau, c'est-à-dire que de l'eau pour donc un lac. Et donc là, j'ai trouvé un lieu. Et c'est d'être dans un climat religieux. Et donc, ça vous paraît un peu étonnant, moi qui vis dans une abbaye au quotidien, eh bien c'est dans une abbaye de femmes, là, près à Boulors, peut-être certains connaissent, dans le Gers, que je vais me reposer, ça va faire peut-être la 15e année maintenant. Donc je ne suis pas du tout original, je reprends toujours les mêmes lieux, etc. Parce que je sais que, pourtant on a une maison de famille dans le sud, etc., mais je ne m'y repose pas, c'est pas un lieu où je me refais mes forces. Et c'est intéressant de dire, est-ce que le repos, est-ce que les vacances, c'est faire tout ce qu'on ne fait pas pendant la semaine et quelque part, je ne sais pas quoi, dans mon cas, ce serait pourquoi regarder des séries américaines tout le temps, plus jamais prier l'office, voilà, c'est quelque part, voilà, c'est est-ce que c'est une compensation ou est-ce qu'on refait ses forces? Et ça, je pense que c'est intéressant de voir la différence entre le repos et la compensation. Hein, et donc, qu'est-ce qui se connaître soi-même? C'est-à-dire que qu'est-ce qui va faire que je vais... De quoi ai-je besoin pour refaire mes forces? Et ça, c'est pas... Encore une fois, moi, je l'ai découvert autour des 40 ans. Je ne m'étais pas vraiment posé la question avant. Et donc, du coup, le pape Paul VI, quand il dit c'est une rencontre de l'homme avec lui-même, avec sa profession, avec le sens de sa propre existence. Parce que le repos, c'est intéressant de voir ça, c'est pas simplement l'absence de travail. Le repos, c'est l'accomplissement du travail. Et vous le savez bien dans la Bible, puisqu'on va s'inspirer essentiellement de la Bible pour notre topo de ce soir, dans la Bible, on voit bien cette question-là que, pour les origines, par exemple pour Israël, avec le Shabbat, c'était consacrer un jour de repos au Seigneur, et aussi on faisait reposer la nature. Vous voyez ça en Exode 34-25, hein, où justement, tu te reposeras, mais aussi ton serviteur se reposera, mais aussi ton âne et ton bœuf. C'est-à-dire, la nature se reposera, aura un temps pour refaire ses forces. Et en préparant cette réflexion de ce soir, je me dis, en la liant aussi à la question de l'écologie, parce que c'est aussi un lien avec l'écologie, cette question du repos, le fait que l'on soit dans des sociétés où de plus en plus il y ait cette tentative de ne plus avoir de repos, en tout cas de ne plus avoir de repos social, avec le travail le dimanche, avec 16 jours sur 7, voilà, H24, on voit bien des moi, j'ai été très frappé, par exemple, quand j'étais à Londres. Il n'y a aucune, certains, beaucoup, vous connaissez certainement Londres, etc. quand vous voyez, vous ne pouvez pas faire la différence entre le dimanche et les autres jours. Vous ne pouvez pas faire la différence, parce qu'on ne voit pas. Alors qu'en France, pour le moment encore, il y a une différence. Et je trouve ça important parce que du coup, la nature aussi se repose. Et le fait d'un excès de travail, un excès d'activité, d'une hyperactivité, fait aussi que la nature derrière, elle est aussi sollicitée. On tire des forces de la nature pour pouvoir évidemment nous-mêmes nous donner l'énergie pour l'activité. Donc c'est intéressant de faire le lien entre et le repos et le respect de la nature. En tout cas dans la Bible c'est très clair, c'est que tu te reposeras et tu feras aussi que aussi ton âne et ton bœuf lui aussi ne travaillent pas, ainsi que ton serviteur, etc., etc. Et puis, dans la Bible, on voit d'autres choses. C'est que le repos, c'est le signe d'une libération. Hein, on voit ça dans la Torah précise qu'il faut se laisser, et il faut se laisser reposer les animaux, les travailleurs. À cela s'ajoute un travail de mémoire. Israël se souvient par le repos qu'il a été libéré de la maison d'esclavage, se reposer est le signe de la liberté. L'esclave, lui, n'a pas de vacances. Donc, c'est intéressant de voir que c'est une expression de liberté. C'est une expression de liberté où je mets mon activité entre parenthèses pour pouvoir dire derrière ça, c'est sortir d'une toute puissance. C'est sortir d'une toute puissance. Parce que l'hyperactivité, l'hyperactivisme dans lequel nous sommes, c'est souvent une sorte de toute puissance, c'est souvent une. Quelque part, se reposer, c'est accepter aussi que le monde tourne sans moi, que les choses se font sans moi, que je ne suis pas indispensable. Et c'est une certaine mort, et c'est pour ça parfois que ça nous est difficile, et que des personnes ont du mal, que ce soit le repos, j'allais dire, quotidien, et du coup, ont une peur de la page d'agenda vide, par exemple. On voit surtout à Paris, où vous êtes très sollicité pour les soirées, etc., etc., hein, dont cette soirée aussi, du reste. Mais où, au fond, il y a une forme de... quelque part, une peur de mourir. Parce que se reposer, c'est aussi une certaine mort. C'est une certaine mort à soi-même. C'est une certaine mort à une efficacité qui est reconnue, à une productivité. Et donc, le fait de se reposer, ça implique certainement comme une libération. Est-ce que je me libère de... Le travail est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le travail. Et à travers le Shabbat et puis ensuite le repos dominical dans le christianisme, il y a cette idée de... Et c'est intéressant de voir que les religions, en tout cas, ont un jour de repos, en tout cas les religions monothéistes, parce que c'est l'affirmation d'un autre. Se reposer, c'est de dire, ce n'est pas moi qui suis à l'origine de tout, c'est je reconnais quelque part une transcendance. Et c'est intéressant de voir que cette hyperactivité, ce désir de non-repos de nos sociétés, en tout cas occidentales, ça va aussi en même temps avec une sécularisation. Vous voyez, ça va avec une sécularisation parce que l'absence de Dieu de nos sociétés fait qu'au fond, pourquoi se reposer ou pourquoi... quelle est la vraie raison? Parce que si on n'a pas l'absence de Dieu d'une transcendance, ben on a tous un Dieu. Et c'est souvent l'argent qui conduit le destin de beaucoup de personnes. Et donc, qui dit l'argent, dit le travail. Et donc, du coup, on ne met jamais sur off. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est se reposer, c'est l'affirmation d'un autre. Et donc, comme dit le Palpozzi, c'est la rencontre de l'homme aussi avec sa propre existence, le sens de sa propre existence. Nous allons tous vers le lieu du repos, qu'est notre mort. Notre mort n'est pas présentée comme une fin, mais comme un début dans une dimension chrétienne. La mort, c'est le lieu où on se reposera en Dieu. Hein, notre cœur n'a de repos tant qu'il ne repose en toi, Seigneur. C'est saint Augustin qui disait ça. Et donc, tant que je découvre que, au fond, je ne peux pas m'appuyer. Si j'évacue, j'allais dire, le Seigneur de ma vie et je ne donne pas la place au Seigneur dans ma vie, il y a quelque chose du repos de l'âme en Dieu, de repos intérieur qui n'est pas accompli. Et donc on est toujours dans une activité, alors que ce soit une activité rémunérée, mais aussi une activité peut-être chez soi, on veut bricoler, etc. etc. On est toujours dans, on ne se pose jamais. On voit des personnes, c'est des sortes de tourbillons permanents, que ce soit à la maison ou que ce soit au travail. Il n'y a pas cette dimension de... cette dimension contemplative. Vous voyez, je pense que ça va aussi avec la dimension contemplative de nos vies. Où est-ce qu'on en est de la dimension contemplative? Est-ce qu'on sait s'arrêter? Est-ce qu'on sait... Et quand j'étais là et je rentrais là, dans au fond de la chapelle, et je vous voyais de dos, mais je voyais en face les petites choses là que vous tenez, que nous tenons tous en main, et je vous voyais beaucoup avec tac 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 en faire des tas de choses. Bon. La difficulté de cet engin-là, c'est qu'on ne s'ennuie jamais. Or, s'ennuyer est important. Parce que s'ennuyer, c'est aussi un lieu de contemplation. Par exemple, est-ce que vous avez contemplé la fresque que j'ai derrière moi, qui est une fresque absolument extraordinaire, qui a été faite par Rupnik, qui est un grand artiste, qui est un jésuite, si je ne me trompe pas, qui a fait des fresques aussi au Vatican, dans des lieux très célèbres. Bon, est-ce que vous êtes arrêté? Et je trouve que cette hyperconnectivité, là pour le coup, il n'y a pas de repos sur Internet, c'est tout le temps ça, flux tendu, cette hyperconnectivité va faire qu'on n'arrive plus à s'arrêter pour juste contempler ce qu'il y a autour de nous, regarder ce qu'il y a, et aussi regarder l'autre. Parce que derrière ça, non seulement c'est regarder la nature, mais c'est aussi regarder l'autre. Et donc prendre du temps avec l'autre. Et je pense que de ce côté-là, il y a quelque chose à retravailler dans nos vies, à essayer de nous mettre, d'avoir, de récupérer. C'est ce que dit aussi Jean-Paul II. Il disait, dans la société actuelle, souvent frénétique et compétitive, dans laquelle domine la logique de la production et du profit, souvent au détriment de la personne, il est encore plus nécessaire que chacun puisse bénéficier de périodes adéquates de repos au cours desquelles récupérer un juste équilibre intérieur. Voilà. Le repos, c'est récupérer un juste équilibre intérieur. De quoi ai-je besoin? Et attention aux faux repos. Les faux repos, c'est les idoles. Et on voit bien que notre société fonctionne beaucoup comme ça, en tout cas certaines personnes fonctionnent comme ça. On pense que le stress va se résoudre dans le plaisir. Et donc on passe du stress au plaisir, du plaisir au stress. Et les sources de plaisir qui sont au fond des compensations, que ce soit la nourriture, que ce soit l'alcool, que ce soit le sexe, que ce soit la cigarette. Du coup, on tend l'élastique, et ensuite... On pense que se reposer, c'est au fond rentrer dans une dimension de plaisir. Alors, du coup, on détend et puis on le retend, etc. Et vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas en place dans cette manière de vivre. Parce que c'est une manière de vivre. Et se reposer, je trouve c'est intéressant de dire que c'est justement par rapport aux idoles. C'est quoi l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est mettre quelque chose ou quelqu'un à la place de Dieu. Et cette absence de Dieu et cette absence de vie spirituelle dans nos vies, et donc de silence, et donc de dimension contemplative. Tout ça, c'est dit d'une autre manière, d'une manière ou d'une autre. Ça dit aussi qu'on préfère la compensation, en fait, des faux repos. Il y a des faux repos qui nous épuisent. Hein, et voilà. Donc. Je trouve que ça peut être intéressant, en tout cas à la fin de la soirée. Je vous inviterai à prendre un temps de silence pour vous remettre aussi face... vous me posez la question, même vous pouvez commencer. Si j'avais trois choses à dire qui me reposent, ce serait quoi? Et on voit au fond que à travers ces trois choses, il y a aussi quelque chose de la manière dont on veut être aimé. Hein, c'est une sorte de langage de l'amour que l'on dit à travers notre manière de nous reposer, hein, parce que ce soit les instants de qualité, etc., etc. Et puis, un autre point aussi dans le sens du repos que donne la Bible, dont j'ai dit le sens de le signe de la libération, hein, les esclaves, eux, n'ont pas de vacances, hein, mais, et donc aussi, ça veut dire une autre chose par rapport justement à la connexion. Où est-ce que vous en êtes du lien avec les écrans? Est-ce que vous savez déconnecter? Est-ce que vous, au niveau pro, est-ce que vous savez vraiment couper? Il y en a qui ne coupent même pas en vacances. Parce qu'il y a une sorte de, oui, il y a une sorte d'anxiété, il y a une sorte de vouloir être bien vu parfois, ça peut être ça. Je veux être bien vu par mon chef, etc. Avoir peur de manquer quelque chose. Derrière ça, c'est que avoir peur que le monde tourne sans moi, avoir peur qu'on m'oublie. Et du coup, je réponds et du coup, je suis. Vous voyez, c'est vraiment le hamster dans la roue. L'hamster dans sa roue qui lui a besoin toujours de tourner, etc. Mais en fait, il s'épuise en tournant, alors que bon, il se dit, mais si j'arrête, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Et donc, est-ce que je suis capable de couper? Et souvent, vous avez des questions souvent entre équilibre entre vie pro et vie perso, et je trouve que ça, l'équilibre se voit à la manière dont vous vivez le repos. Hein, est-ce que c'est quelque chose qui, donc aussi que chacun puisse s'interroger là-dessus. Ensuite, le repos, c'est, le deuxième point, c'est le repos, la participation au repos du Créateur. L'homme, par le repos, imite Dieu qui, après avoir créé le ciel et la terre, chôma et reprit son haleine. Le repos du Shabbat unit Dieu à l'homme, c'est le signe de l'alliance. Se reposer, c'est se montrer image de Dieu, fils de Dieu. C'est très intéressant que dans le livre de la Genèse, donc, et qui n'existe dans aucun autre récit mythologique, c'est très intéressant de voir que dans le livre de la Genèse, on voit un Dieu qui travaille, mais on voit un Dieu qui se repose, ce qui est une chose vraiment très unique, absolument unique. Jamais on n'aurait pas pensé, bon, c'est là où on voit que c'est inspiré, parce que c'est quelque chose qui ne nous viendrait pas spontanément à l'esprit et qui n'existe pas dans toutes les autres mythologies, explications du monde qu'il peut y avoir dans d'autres, ou d'autres religions, ou d'autres sagesses, etc., de voir qu'au fond, Dieu aussi se repose. Le repos, ça, on imite le repos créateur. On se recrée. Il y a une recréation de nous-mêmes. Et quand je dis qu'est-ce qui vous repose, qu'est-ce qui vous recrée? Qu'est-ce qui fait que vous retrouvez des forces neuves. Et de voir qu'à travers ça, nous, on accomplit notre image de Dieu à travers le repos, comme aussi à travers le travail. Donc c'est intéressant, c'est que le repos n'est pas l'absence du travail, mais l'accomplissement du travail. C'est pas par la négative, c'est quelque chose qui va faire que le travail va être ressaisi et remis dans sa finalité. Parce que, justement, à travers le repos, c'est gérer l'absence, c'est gérer le manque. Et gérer l'absence et le manque me renvoie directement au sens de mon existence. Ben pourquoi je travaille, tout simplement? Et c'est le temps de repos qui va me permettre de me dire, ben, le sens de mon travail, quel est-il, hein, et quelle place occupe-t-il, etc., etc. Donc, c'est le repos, c'est l'affirmation que nous sommes des créatures et que Dieu, et nous ne sommes pas Dieu, hein, Dieu lui-même qui se repose. Nous ne sommes pas Dieu. Et dans l'idée, et je trouve dans nos sociétés, l'idée d'un travail H24, l'idée de la non-déconnexion du monde professionnel, du non-repos, etc., ça dit quelque chose. Il y a une forme d'idolâtrie, il y a une forme de toute-puissance. Il y a une forme de toute-puissance. J'ai toujours quelque chose à faire. Bien sûr qu'on a toujours quelque chose à faire. Mais il y a une forme d'orgueil, au fond. Et le repos, c'est rentrer dans une dimension d'humilité, de modestie. Hein, de modestie, et donc, bon, je trouve ça intéressant de méditer là-dessus. Voilà, c'est ça. Et donc, ne pas prendre le repos nécessaire pour une vie équilibrée, c'est une forme de toute-puissance et une manière de rejeter Dieu. Et oui. Ne pas prendre un temps de repos équilibré, nécessaire pour une vie équilibrée, c'est une manière de rejeter Dieu, parce que derrière, il y a la place qui n'est pas faite à la vie de prière, ça c'est sûr. Derrière ça, on ne prend pas assez conscience quand on ne se repose pas, ou si on ne se repose pas assez, ou suffisamment, ou de la bonne manière, et là encore, quelle est notre manière de nous reposer, qu'est-ce qui refait nos forces, c'est à chacun de répondre. Mais du coup, souvent, ça va avec un manque de vie intérieure, un manque de vie spirituelle, un manque de contemplation. C'est intéressant de voir que le fait de se reposer, ça participe aussi à l'acte créateur de Dieu, Dieu qui nous recrée intérieurement. C'est un lieu de fête aussi, le repos. C'est un lieu de fête, on voit bien que par le Shabbat, puis le dimanche, etc., ne consiste pas seulement à se reposer, mais à prendre un temps pour célébrer dans la joie le Créateur et le Rédempteur. C'est un lieu de sanctification. Pour l'homme de la Bible, se reposer implique une attitude spirituelle marquée par des rites et une liturgie. Et ça s'intéresse. Vous voyez, je trouve dommage, nos sociétés, il y a moins de rites, de rites de passage. Vous voyez, entre l'âge adulte, bon, il y a encore le bac qui reste à peu près rite de passage entre l'âge adulte, disons l'adolescence et la vie étudiante. Ensuite, bon. Il y a un peu le permis de conduire dans certaines mesures. Il y a le début de la vie professionnelle. Bon, mais je trouve que le fait que notre vie, de ritualiser les choses, le repos permet ça justement. C'est le temps du rite. Parce que quand on ritualise, du coup, ça structure notre vie. Et une vie sans repos, c'est une vie déstructurée. C'est une vie qui n'a plus de rite. C'est une vie qui n'a plus de liturgie. Mais au sens tant profane que religieux, précisément parce que c'est une vie qui n'a plus de repères. Et de faire le dimanche comme les autres jours, je trouve que c'est perdre en société les repères. Déjà qu'on n'a pas énormément de repères. Vous voyez, par exemple, il y avait le rite du service militaire. Bon, maintenant, il est plus ou moins question de le remettre en service, le remettre au goût du jour, etc. Mais c'était aussi un rite. Nos vies sont filles de rite. On se brosse les dents ce matin, on se prend sa douche. Et c'est important de ritualiser les choses. Parce que c'est en ritualisant qu'on se construit. C'est quelqu'un qui n'a pas de rite, c'est quelqu'un de déstructuré. C'est quelqu'un qui est juste simplement. Juste dans une certaine spontanéité de l'instant, mais qui ne pense pas sa vie quelque part. Et je crois que c'est intéressant à travers les rites qu'offre, en tout cas pour l'homme de la Bible, c'est très clair. Se reposer implique une attitude spirituelle marquée par des rites, une liturgie. Ce n'est pas le repos de Dieu, c'est le repos en Dieu. C'est toujours intéressant, parce que j'ai un certain nombre de personnes que j'accompagne. Quand elles reviennent de vacances, etc., mais pratiquement à chaque fois, elles disent « Mais qu'est-ce que j'ai eu du mal à prier ? Mais qu'est-ce que j'ai ?» Je prie beaucoup plus difficilement en vacances que quand je suis dans une vie active ordinaire. Et ce qui est un peu contradictoire, parce qu'on pourrait s'attendre, je crois, il y a plus de temps pour ça. Non, c'est souvent une. Parce qu'on pense que les vacances, il n'y a pas de rite. Et c'est intéressant de dire quel rite on va mettre dans notre vacances. En même temps, c'est la rupture qui repose, hein, je veux bien le croire. Mais pensez aussi dans vos vacances, quel rite vous. Alors, je pense au rite dominical, mais c'est religieux, mais ça peut être d'autres rites, ça peut être bon. Quel rythme je vais donner ? Qu'est-ce que je veux vivre ? Qu'est-ce que. Voilà, et je crois que c'est ça aussi qui nous construit. Pourquoi pas faire l'expérience d'une retraite, pourquoi pas. Les vacances sont aussi un lieu de contact avec la création, de contemplation, d'émerveillement. Le repos est lié à l'émerveillement, parce que c'est lié aussi à notre vie, à une vie contemplative. Donc, j'avais une citation là, de Jean-Paul II aussi qui est intéressante. Il est alors naturel de considérer d'un autre œil son existence et celle des autres. comme libéré des occupations quotidiennes pressantes, il a la possibilité de redécouvrir sa dimension contemplative en reconnaissant l'empreinte de Dieu sur la nature et surtout sur les autres êtres humains. Il s'agit d'une expérience qui l'ouvre à une nouvelle attention à l'égard des personnes qui vivent à ses côtés, en commençant par sa famille. Pensez par exemple, qu'est-ce que vous voulez vivre, là il y a la période estivale qui approche, etc. Qu'est-ce que vous voulez vivre dans cette période-là? Quelle personne vous voulez rencontrer? Quel moment de qualité vous voulez mettre en place? Parce que c'est souvent ces moments de qualité. Quel ami que vous n'avez pas vu depuis de longue date et que vous aimeriez visiter? Voilà, c'est des questions comme ça qui, je trouve, c'est intéressant de se poser pour ne pas arriver aussi à la fin de ces vacances épuisé parce qu'on a voulu, on veut rien manquer. On court aussi pendant les vacances. Et parce qu'il y a des propositions qui nous ont fait à droite, à gauche, etc. Puis surtout, et si je manque, et puis il y a tous les mariages qui s'enchaînent, etc. Bon, qu'est-ce que. Et donc derrière ça, se reposer, c'est dire je, et dire je, c'est dire non. Dire je, c'est dire non. Donc c'est à quoi je vais dire non pendant ces vacances et à quoi je vais dire oui pendant ces vacances. Et je crois que c'est aussi une autre manière de voir les choses. Hein. C'est donc récupérer un juste équilibre intérieur. Et faisons attention, encore une fois, à ces faux repos qui sont au fond des compensations. Oh, je ne sais pas quoi, je vais faire la fête, on va souvent avec force alcool, avec casser un rythme, bon, mais du coup, moi, je suis assez perplexe, c'est peut-être parce que je n'ai pas votre âge, je suis d'une autre génération, mais notre rythme de sommeil, c'est des choses qui sont précieuses, notre horloge biologique, etc., c'est des choses dont il faut prendre soin, et je trouve le repos refait aussi ce rythme intérieur et ce rythme biologique. Et puis, il y a aussi une autre chose, c'est qu'il y a le repos de Dieu. Le repos de Dieu, et ça c'est le repos qui donne du sens au travail, mais le repos de Dieu, c'est-à-dire qu'on voit que Israël est amené, qu'on voit dans la Bible, à peu à peu, à travers l'errance, l'exode, les guerres, à découvrir que Dieu est le seul repos. La terre promise figure du repos de Dieu. Ce repos espéré est le fruit d'une longue conquête. C'est le repos terrestre qui m'est garanti par Dieu, qui a décidé de prendre son repos dans le temple. Voilà, la fidélité à l'alliance conditionne la nature et la durée du repos sur la terre. Je trouve que c'est intéressant, en tout cas pour, je pense, la grande majorité qui partage la foi, etc., une vie spirituelle, de se dire, est-ce que ça ne peut pas être le moment d'une dimension spirituelle, au contraire, plus intense, et de découvrir, au fond, que me reposer, c'est me reposer dans les bras de quelqu'un, c'est me reposer en quelqu'un, c'est me remettre en quelqu'un, c'est refaire l'expérience d'une confiance, parce que c'est ça qui fait le vrai repos, c'est refaire l'expérience d'une confiance. Hein, et je crois que c'est parce qu'on refait l'expérience et qu'on remet sa vie dans les mains du Seigneur, qui est lui notre repos, hein, et c'est pour ça que c'est difficile, en tout cas je pense que la vie de prière c'est quelque chose qui est difficile parce que on n'est pas justement il y a une certaine mort à soi-même dans la vie de prière parce qu'on n'est pas là à, comment dire on n'en est pas les décideurs de la rencontre. Dans une vie de prière, il y a une histoire de rencontre avec Dieu. C'est Dieu, on n'est pas à l'initiative des choses. Et donc, c'est accepter aussi que Dieu soit à l'initiative dans notre vie. Et ça, c'est une certaine mort à soi-même. Mais c'est en même temps très reposant. C'est de se remettre dans les mains de celui de qui tout dépend, qui est le repos de notre vie. Donc, je trouve que c'est quelque chose, ça nous fait penser qu'il y a un avant-goût aussi du repos définitif, Jésus qui parle justement du Shabbat, le Shabbat qui est pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, il invite au fond à se remettre complètement dans la perspective du moment. C'est intéressant, quand on prie les complis, Peut-être vous connaissez cet office, les complices, c'est le dernier office de du jour que prient les religieux, etc. Et souvent, l'office des complices, on fait mémoire de la mort. Et c'est intéressant de se dire, est-ce que dans l'hyperactivité que je vis, est-ce qu'il n'y a pas une angoisse de la mort ? Et donc aussi d'après la mort, dans un moment où le monde tournera sans moi. Et j'en fais l'expérience dans le repos où le monde tourne sans moi. Mais il y a un lien très fort entre le repos et la mort. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a une anxiété. Et c'est peut-être aussi pour ça que nos sociétés qui éliminent Dieu progressivement de l'espace public et de la sphère publique, etc., nos sociétés occidentales, se sécularisent, comme on dit. Parce qu'il y a une... Et donc forcément, s'il y a rien après, il faut faire quelque chose. Du coup, il y a une sorte d'anxiété. Il faut que je produise, il faut que je m'active, il faut que... Voilà, que je ne vais pas rester sans... On sent vraiment le hamster dans sa roue. Je pense que c'est quelque chose sur lequel... En tout cas, le lien me paraît vraiment clair entre la question de la mort et la question du repos, parce que ça pose la question le sens de notre existence, au fond. Il y a quoi après la mort ? Est-ce que je suis... si je ne suis pas croyant et que... Ou si je pense que je mets le repos, mais dans des choses simplement matérielles. Vous connaissez cette parabole que Jésus... d'un homme qui amasse dans ses greniers, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, cette parabole-là, où il amasse, etc., et puis il construit des greniers encore plus grands, et puis il dit, voilà, il met ses récoltes, et à un moment donné, une fois qu'il a tout récolté, qu'il a tout mis dans ses greniers, il dit, repose-toi, ô mon âme. Et dans la parabole que dit Jésus, il entend une voix qui lui dit, pauvre fou, ce soir même, on te réclamera ta vie. À quoi te servira tout ce que tu as accumulé ? Vous voyez, mettre le repos dans ce qui est incapable, qui n'est pas apte, nous portons en nous-mêmes quelque chose d'infini. Et ce n'est pas les choses finies qui vont nous donner le repos. Nous portons en nous-mêmes quelque chose d'immortel. Et ce n'est pas les choses passagères qui donneront le repos. Donc, dans cette parabole qui laisse beaucoup réfléchir, justement, on voit il se repaît de son œuvre. Mais en fait, dans l'idolâtrie, il n'y a jamais de repos. En l'idolâtrie de l'argent, je peux toujours avoir plus d'argent, je peux toujours ajouter un zéro à la somme que je peux. Voilà, il n'y a jamais de repos. Ça, c'est l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie, le pouvoir, c'est une forme d'idolâtrie. Il y a aussi, je peux toujours vouloir toujours plus de pouvoir, toujours plus de responsabilité, etc. Dans tout ce qui est l'idolâtrie liée au plaisir charnel, etc., ça peut être aussi une fuite en avant. Vous voyez, la perte de conscience de la fin de notre existence fait que notre vie devient une course en avant. Et le repos, c'est arrêter cette course en avant. C'est faire qu'on dit non à cette course en avant. Parce qu'on se remet face à la finalité de nos vies. Alors, il y a quelque chose parfois d'angoissant si on n'est pas habitué. Et à la fois, il y a quelque chose qui est profondément structurant. Voilà, c'est Jésus qui parle de ça. On voit aussi, par exemple, dans Saint Jean... Mon Père travaille et moi aussi je travaille. En Dieu, le travail et repos ne s'excluent pas, mais s'appellent. Et ils expriment le côté transcendant de la vie divine, le travail du Christ et des ouvriers de la moisson, et de secourir les brebis, de les conduire à Jésus. Voilà. Et d'offrir aux âmes qui viennent le repos. Prenez sur vous mon joug, et rentrez dans mon repos. Le Christ nous conduit au repos de Dieu. Et de faire mémoire, et ça c'est aussi une autre chose qui est intéressante, de faire mémoire du moment de sa mort, non pas comme étant dans une phase dépressive ou je ne sais quoi, mais au contraire comme quelque chose qui viendra revaloriser l'ensemble de ma vie. Je trouve que quand il m'arrive assez peu de célébrer des obsèques, parce que je ne suis pas en paroisse, etc., mais les quelques fois où j'ai célébré des obsèques, ben je trouve, moi ça m'a aidé. Je me dis, je serai à un moment donné dans ce cercueil, dans un cercueil, et du coup, ma vie, qu'est-ce qui restera de ma vie? Qu'est-ce que, à la fin de ma vie, qu'est-ce qui va rester? Ben, il va rester des actes d'amour désintéressés. Et les actes d'amour désintéressés, nous croyons que ça retentit dans l'éternité. Nous croyons que la charité, comme le dit saint Paul, ne passe jamais. Et donc les actes d'amour désintéressés, je trouve que ça... le repos dit une certaine gratuité. Ça dit de sortir de cette efficacité, de mettre le cap sur ce qui compte vraiment. Voilà, qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie? C'est quoi qui compte? Mais ce qui compte, c'est souvent les relations. Les relations, peut-être certains d'entre vous, vous êtes en couple, bon, ça compte vraiment. Les relations en famille, les relations avec Dieu dans la vie de prière. Qu'est-ce qui nous repose souvent? C'est l'alternance de solitude et l'alternance de communion. C'est ces deux choses. Hein, et donc, je trouve que voilà, ça peut être assez intéressant de réfléchir là-dessus et de dire, voilà, ça me remet face à la vraie dimension de ma vie, aux priorités dans ma vie. Je sais, par exemple, certains, pendant l'été, vont faire le chemin de Saint-Jacques. Je trouve ça très intéressant, ce qui se passe autour du chemin de Saint-Jacques. C'est très fort, c'est un regain. Moi, je me rappelle, mais c'est récent, ça quoi, 20-30 ans, ce regain, ça pas... Mais je ne me rappelle pas dans ma jeunesse que des gens partaient comme ça par fou. Mais il y a des foules entières sur le chemin de Saint-Jacques. Mais on sent qu'aujourd'hui, et c'est très intéressant ce qui se passe autour du chemin, parce que c'est des gens, il n'y a plus d'identification sociale. On est avec les baskets, on est machin, un peu habillé, un peu de la même manière. Il n'y a plus de hiérarchie. Il y a des gens qui ne se connaissent pas, il y a des gens qui sont là pour X raisons, qui portent une vraie dimension de foi, mais d'autres pas du tout. Ils sont là, parfois même pour le sport, dire est-ce qu'on va réussir à faire cette étape en moins de temps que c'est indiqué sur le guide. Voilà. Mais je trouve ça intéressant parce que c'est un lieu de rencontre. Et le chemin de Saint-Jacques, par exemple, qui est un lieu aussi de repos, bah, je trouve ça nous... C'est un temps de rencontre. Et je trouve on sent que nos sociétés ont besoin de lieux comme ça. Ont besoin de lieux où la rencontre est à nouveau possible, où la gratuité est à nouveau possible, où la rencontre d'un moment, où la rencontre de visage est à nouveau possible. Alors voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire ce soir sur ce repos, le repos du ciel. Hein. Le Christ nous ouvre hein, le repos qui, du ciel et voilà, nous... où nous serons reposés de nos fatigues. Hein, se reposer au ciel, ce n'est pas rien faire, mais c'est parfaire son activité dans la charité. Hein, vous rappelez la phrase de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, hein, je passerai ma vie au ciel, mon éternité à faire du bien sur la terre. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Donc la dimension du ciel n'est pas une inactivité. Mais c'est une contemplation, c'est une louange de Dieu pour toujours. Et cette louange de Dieu, elle retentit aussi sur la terre. Et donc, je trouve ça intéressant de parler, puisqu'on a parlé de la mort, qu'on puisse aussi peut-être faire mémoire de nos fidèles défunts, de nos familles, qu'on puisse se poser aussi quelle connexion j'ai avec le ciel, avec les personnes qui m'ont quitté, qui sont dans le repos de Dieu. Voilà, et que quelque part, Vivre le repos, c'est vivre quelque chose de l'éternité, ici-bas. C'est vivre tout simplement voilà, d'une. C'est un avant-goût. C'est un avant-goût de l'éternité. Je vous propose maintenant de. Je vais terminer avec mon petit speech. On va peut-être prendre 3 minutes en silence. Et pendant ces 3 minutes en silence, vous pourriez réfléchir à 3 choses qui vous reposeraient vraiment pendant cet été, par exemple, que vous aimeriez vivre et qui referaient vos forces. Voilà, vous avez peut-être des questions. Différence entre repos et paresse, c'est ça. Dans la compensation, j'ai parlé un petit peu de la décompensation. Je ne sais pas si tu étais là, Xavier, mais j'ai parlé de la compensation, qui sont parfois des faux repos, justement, où on veut résoudre le stress par le plaisir, et du coup, on tend l'élastique, on le détend, mais en fait, on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place. Et donc, ça, c'est des faux repos. Dans la paresse, qui est un péché capital, c'est-à-dire que c'est intéressant, c'est la paresse n'est pas un repos. Dans la paresse, il y a quelque chose d'un non-choix. Il y a quelque chose d'un auto-centrage sur soi-même. Et il y a quelque chose qui fait que je ne prends pas vraiment de décision. Je laisse les choses aller, je procrastine, etc. Mais en fait, ça m'épuise. La paresse a quelque chose d'épuisant. Parce qu'il y a des choses à faire que je ne fais pas. Et on a tous des trucs, on se dit, mais il faut absolument que je fasse le courrier. On a tous nos trucs qu'on n'aime pas, de papier, de ceci, de cela, voilà. Mais qui, en fait, reviennent ensuite régulièrement et qui nous laissent pas en paix. Or, le repos, c'est l'inverse de la paresse. C'est premièrement un choix, et un choix de quelque chose qui va nous apporter la paix. Donc, moi, je vous fais assez bien la différence entre repos et paresse. C'est pas du tout du même ordre. La paresse, c'est une forme d'égoïsme. Dans le repos, c'est ça. Dans le repos, je me repose aussi pour porter du fruit pour d'autres. Comme religieux et comme prêtre, pour moi, c'est très important d'avoir des temps de repos. On a, par exemple, dans notre communauté, une journée par mois de retraite, que ce soit communautaire un mois ou personnel l'autre mois, mais c'est très important ce temps-là. Ce temps-là qui... Je refais des forces, je me nourris intérieurement, et c'est souvent accompagné d'un temps spirituel plus fort, etc. Je me nourris intérieurement, mais aussi pour pouvoir redonner. Donc il y a quelque chose, il y a l'idée de se reposer, c'est encore rester dans une logique de don. Alors que dans la paresse, c'est l'inverse. Dans la paresse, c'est une forme de repli sur soi-même, une forme de... mais je ne suis plus dans une logique de don. Voilà, c'est un peu la différence que je ferai. Et ça m'épuise, au fond. Et surtout, ça épuise les autres. Hein, parce que du coup, il y a peut-être des choses qui sont attendues par les autres, et légitimement, et par paresse, je ne les fais pas. Et c'est le repos, la paresse fait porter à d'autres ce qui doit être fait. Alors que dans le repos, ce n'est pas ça. D'autres questions un peu sur cette... Le repos est différent du plaisir parce qu'il n'est pas de l'ordre de la compensation. C'est-à-dire que je vais essayer de trouver dans mon quotidien quelque chose qui refait mes forces. Quelque chose qui... alors, il peut y avoir une dimension de plaisir, etc. Le plaisir, il n'est ni bon mais ni mauvais, mais on voit qu'il y a des personnes qui ne savent pas s'arrêter. Ils fonctionnent que stress, plaisir, plaisir, stress. Je veux dire, c'est leur manière de fonctionner. C'est par compensation. Hein, et quelque part, il y a un non-choix. Dans le repos, je trouve que il n'est pas directement lié au plaisir, que ce soit souvent les plaisirs liés au corps, c'est ceux qui sont les plus forts, évidemment. Hein, et donc, il y a d'autres choses qui nous reposent. Ça peut être un travail intellectuel, ça peut être une rencontre, ça peut être un temps de solitude. Voilà. De quoi j'ai besoin dans le plaisir, c'est je résous le stress par le plaisir. Et ça, c'est très fréquent. Très fréquent. Toutes les soirées alcoolisées, toutes les questions de drogue, plus ou moins, voilà, tout ce qui est lié. Voilà, je résous ça au lieu de se dire, mais est-ce qu'en amont, j'aurais pas à mettre de l'ordre dans ma vie pour que ceux qui dépendent de moi, le stress ne soit pas aussi grand? Est-ce que ce stress-là, il vient que du travail ou que je veux mettre dans 24 heures plus que 24 heures? Ah, c'est pas pareil. Alors du coup, est-ce qu'il vient aussi d'un manque de solitude parce que j'ai peur de la solitude? Et du coup, voilà, je résous du coup, je préfère ne rien manquer, ne pas manquer une occasion, mais du coup, forcément, on a besoin aussi de dormir, etc. Du coup, le corps se tend, et du coup, pour le détendre, la manière la plus efficace, c'est toutes les formes de plaisir que j'ai évoquées, évidemment. Hein, mais est-ce qu'en amont, on ne peut pas se dire, mais est-ce que j'en fais pas trop? Plutôt que d'arriver à... c'est pas tout à fait pareil. Moi, je ne lirais pas les choses de la même manière, c'est... Dans la manière dont je présentais, de tendre l'élastique, le détendre, il y a le fait de déjà ne pas choisir, et puis de dire, mais est-ce que je ne peux pas déjà vivre l'élastique un peu moins tendu? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses que je pourrais, en termes d'hygiène de vie, mettre en place pour que ma vie soit plus paisible? Pour ce qui dépend de moi. Il y a le stress au boulot, bon, ça dépend plus ou moins de moi. Ça c'est sûr, mais il n'y a pas que le boulot, il y a d'autres choses où je me mets une pression moi-même. Et parfois même au boulot lui-même, je me mets plus de pression que ce qui m'est demandé, parce que je suis un perfectionniste, parce que, etc., etc. Oui, c'est très lié au perfectionnisme, par exemple. Hein, les perfectionnistes fonctionnent beaucoup de pression, etc. Mais comme le corps, il a besoin de respirer, du coup, on relâche tout, mais ensuite on remet la pression. Oui, c'est ce côté hamster dans la roue et qui fait que c'est pas du repos, c'est qu'on compense. Merci. une activité de... J'ai pas entendu. Oui, ça, c'est, dans le repos, il y a une chose qui me repose, c'est faire du travail intellectuel. Le repos, c'est pas forcément le non-travail, mais c'est souvent un travail qu'on n'a pas l'habitude de faire. Par exemple, il y a des gens qui sont doués de leurs mains, mais ils sont conseillés, je sais pas quoi, en informatique, etc. Ce qui les reposera, c'est d'aller dans l'établi et de construire, je sais pas quoi, une caisse. Et ça, ça va les reposer. Oui, donc le repos n'est pas l'absence de travail. C'est une alternative au travail, mais je trouve que c'est un autre, et ne serait-ce que de faire une chose à la fois, ça repose, par exemple. Il y en a qui font 10 choses à la fois, ça les tend, justement, et donc ça tend l'élastique, parce qu'ils en font trop. Et moi, je trouve que oui, c'est de dire, mais est-ce que moi je sais qu'un travail intellectuel me repose ? Parce que c'est pas ça que je fais au quotidien, parce que je ne prends pas le temps aussi, je le dis très clairement, j'en prends pas le temps, il faut que je m'isole, il faut que je travaille, etc. Bon, ça demande de sortir un peu de sa zone de confort, quoi. Mais en fait, pour retrouver quelque chose qui nous... Mais ce n'est pas forcément de l'introspection, ça peut être, je vous ai dit, du travail manuel, ça peut être le sport, ça peut être bon, des choses où on sent que voilà, ça refait nos forces, on se sent meilleur après. C'est-à-dire que si j'ai bien compris là, parce que ça résonne beaucoup, si j'ai bien compris, si le fait d'avoir une relation, on s'épuise à trouver une relation amoureuse, c'est ça ? Et quand on l'a retrouvée, qu'est-ce qu'on fait alors ? C'est plus facile de se reposer. Oui, oui, c'est vrai, ça peut, oui, ou pas, mais c'est vrai. Alors, la question de la relation, alors, faut-il s'épuiser à trouver une relation amoureuse ? C'est d'abord une question. En amont, il faut se poser la question. Est-ce que ça doit être un lieu de, est-ce que ça doit être un lieu de tension ? Est-ce que justement, on disait, qu'est-ce qui me fait, sachant que c'est un don, une relation amoureuse, une relation de couple, etc., c'est un don. Si je vis tendu de ça, est-ce qu'il y a quelque chose, il n'y a pas de l'ordre d'un lâcher-prise ? Hein, je sais que pour un certain nombre d'entre vous, vous vivez un célibat, mais qui n'est pas choisi, qui est un célibat plutôt subi, et donc un célibat douloureux, etc., pas pour certains en tout cas. Mais est-ce que la réponse à ça, c'est d'être en tension et de... Non. Non, parce que ça n'attire pas déjà une personne tendue, vaut mieux avoir une personne détendue qu'une personne tendue. Donc, typiquement un exemple. On part à la source, on dit non, mais ça, on est... Si j'attends un repos, de trouver la personne ad hoc pour me reposer, etc., et tout le reste du temps je suis en tension, mais je ne trouverai personne. Ben oui, forcément, parce que si je suis une pile électrique, ça n'attire pas les piles électriques, vous voyez, donc du coup, voilà, donc je pense que... Et puis la relation amoureuse n'est pas toujours source de détente. Hein, voilà, il faut aussi se... Moi qui accompagne beaucoup de couples, etc., je dois insister pour que le couple prenne du temps à deux, rien qu'à deux, et ne pas aussi partir dans une fuite en avant, que ce soit à travers les amis, les invitations, la famille, etc. Là aussi, c'est un vrai choix du repos à deux, alors qui est un peu quelque part plus complexe, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes manières de se reposer à deux, mais a fortiori en famille, etc. Mais en tout cas, je pense que c'est mal poser le problème. C'est à la base, faut se détendre vraiment là-dessus. Je dis, trouver une relation, ça viendra. Puis si ça, voilà. Et puis c'est parce que je serai épanoui, je serai détendu, etc., que la personne rayonne aussi et la personne attire.